Chapitre 13. Richard se leva d'un bond quand il vit Kara revenir vers le camp en poussant devant elle un homme qui lui disait vaguement quelque chose. À la chiche lumière, il ne pouvait pas distinguer les traits du type. Sondant les environs, il ne vit personne d'autre. Friedrich explorait le terrain au sud et Tom faisait de même à l'ouest. Kara s'était chargée du nord, cherchant comme les deux autres si l'endroit était une bonne place où passer la nuit. Après une rude journée de voyage, les six compagnons étaient épuisés. La mort de Sith avait exploré la direction que Richard estimait la plus dangereuse, celle vers laquelle ils allaient et où les attendaient des zones habitées. Une fois debout, Richard regretta de s'être levé si vite car sa tête tournait comme une toupie. Comme s'il regardait quelqu'un d'autre agir, il était incapable de contrôler les étranges sensations qu'il éprouvait. Quand il se concentrait vraiment, elle se dissipait, le laissant se demander s'il était le jouet de son imagination. Callan lui posa une main sur le bras, comme si elle avait peur qu'il s'écroule. « Tu vas bien ? » demanda-t-elle. Le sourcier hocha la tête sans quitter Kara et l'inconnu du regard. Depuis leur chevauchée de l'après-midi, quand ils s'étaient isolés pour parler du livre, l'inquisitrice s'inquiétait plus encore pour son mari. Les informations découvertes par le sourcier étaient troublantes, mais son épouse se faisait beaucoup plus de soucis pour lui. Richard pensait avoir contracté une maladie qui lui donnait un peu de fièvre. Voilà qui aurait expliqué pourquoi il crevait de froid alors que tous les autres se plaignaient de la chaleur. De temps en temps, Callan lui posait le dos d'une main sur le front ou sur la joue. Ce contact lui réchauffait le cœur, mais elle faisait mine de ne pas s'en apercevoir, car elle prenait au sérieux son rôle de mère poule. Elle pensait que Richard avait un peu de fièvre. Chargée par l'inquisitrice de confirmer ce diagnostic, Jensen avait touché le front de son frère. Selon elle, s'il avait de la température, ce n'était rien de dramatique. Se fiant au compte-rendu de Callan et de Jensen, Kara n'avait jusque-là pas jugé bon de vérifier par elle-même. Richard pensait seulement que ce n'était pas le moment d'être malade. Il y avait quelque chose d'important en cours et... Quelque chose d'important, certes, mais quoi? Hélas, il ne parvenait pas à s'en souvenir. Pour penser à autre chose, il tenta de se remémorer le nom de l'homme qui accompagnait Kara, mais il ne savait même plus où il avait bien pu le voir. Alors que le soleil sombrait à l'horizon, à l'ouest, ses ultimes lueurs coloraient l'horizon de rose. Alentour, les collines se teintaient de gris à l'approche de la nuit. Au milieu du camp, le feu de cuisson crépitait doucement. Afin qu'ils ne trahissent pas leur présence à des lieux à la ronde, Richard prenait garde à ce qu'il ne brûle pas trop vivement.
« Seigneur Hall !»
salua l'inconnu en entrant dans le camp. Il esquissa une révérence maladroite, comme s'il doutait que ce fût approprié.
« Seigneur, vous revoir est un honneur !»
Plus jeune que Richard d'un ou deux ans, l'homme avait des cheveux bouclés assez longs pour frôler ses épaules couvertes d'une élégante tunique en peau de daim. Un couteau était accroché à sa ceinture, mais il ne portait pas d'épée. Comme des feuilles de chou, les oreilles du visiteur battaient au vent de chaque côté de sa tête. Enfant, il avait dû encaisser pas mal de moqueries au sujet de ses imposants attributs. Aujourd'hui, cela lui donnait un air sérieux et concentré. De toute façon, avec son imposante musculature, il ne devait plus guère être exposé au sarcasme. « Désolé, » dit Richard, « mais j'ai oublié. »«
Seigneur Hall, vous ne pouvez pas vous souvenir de moi. Je n'étais qu'un... Sabar. »
l'interrompit soudain Richard. « Tu te nommes Sabar et tu étais enfourneur dans la fonderie de Prisca, en Alterang. »«
C'est ça. Je suis surpris que vous ne m'ayez pas oublié, Seigneur. »
Sabar était un des ouvriers de la fonderie qui n'avaient pas perdu leur travail grâce aux livraisons de métal du sourcier. Mesurant à quel point Prisca luttait pour garder son affaire ouverte malgré les interminables et contradictoires tracasseries de l'ordre, il était présent le jour où on avait dévoilé la statue sculptée par Richard. Il l'avait vue avant qu'elle soit détruite et s'était impliqué dans la révolution dès le début, combattant aux côtés de Victor, de Prisca et de tous les autres insurgés. Au mépris du danger, cet homme s'était battu pour la liberté, la sienne, celle de ses amis et celle de l'ancien monde. Ce jour-là, tout avait changé. Même si Sabar était jusque-là un sujet de l'ordre impérial, donc un ennemi, il rêvait de vivre comme il l'entendait, en respectant des lois équitables, pas les dictats prétendument altruistes de despotes avides de dominer leurs semblables et de leur imposer d'ignobles mensonges. Perdu dans ses souvenirs, Richard s'aperçut un peu tard que ses compagnons étaient tendus comme s'ils pensaient qu'un drame allait se produire.
« Du calme, Kara, » dit le sorcier. « Je le connais. »«
C'est ce qu'il m'a dit, oui. »
La mort de Sid posa une main sur l'épaule de Sabar.
« Assieds-toi, voyageur. »«
Oui. »
Orange et Richard, ravi de la relative amabilité de Kara.
« Assieds-toi, mon ami, et dis-nous ce qui t'amène. »«
C'est Nietzsche qui m'envoie. »
Richard se releva d'un bond et Callan vint se placer à côté de lui.
« Nietzsche ? Nous sommes en chemin pour la rejoindre. »
Sabar dansait d'un pied sur l'autre, ignorant s'il devait s'asseoir à présent que le seigneur Ral et sa femme étaient debout. Kara, elle, ne s'était pas assise, se tenant debout derrière Sabar comme un bourreau prêt à faire son office. La mort de Sith était présente au début de la Révolution en Alterang, et elle devait se souvenir de Sabar. Mais pour elle, ça ne faisait aucune différence. Dès que la sécurité de Richard et de Callan était en jeu, plus rien ne comptait à ses yeux. Le sorcier fit signe à Sabar de rester assis.
« Où est Nietzsche ? »
demanda-t-il tandis que Callan et lui reprenaient place sur une couverture dépliée.
« Viendra-t-elle bientôt ? » ?»«
Elle m'a chargé de vous dire qu'elle a attendu aussi longtemps que possible. » Mais il y a eu des rebondissements, et elle a dû s'en aller.
Richard en soupira de déception.
Nous avons eu aussi des rebondissements.
Callan avait été capturée et conduite jusqu'au pilier de la création pour servir d'appât et attirer le sorcier. Mais c'était une longue histoire et il n'avait aucune envie de la raconter.
Nous voulions rejoindre Nietzsche, mais nous avons dû faire un détour inévitable.
Sabar hocha pensivement la tête.
« Je me suis inquiété quand elle est revenue en annonçant que vous ne vous étiez pas montré au moment du rendez-vous. Mais elle pensait que vous aviez dû avoir une urgence et elle ne se faisait pas trop de soucis. Victor Casquel, là, le forgeron, a blémi d'angoisse quand Nietzsche nous a raconté tout ça. Il pensait que vous reviendriez avec elle, seigneur Ral. D'après lui, la révolte couve dans d'autres villes, des endroits où Priska et lui ont des relations d'affaires. Les gens ont entendu parler de la déroute de l'ordre en Alterang, et ils savent que les habitants, depuis, sont beaucoup plus heureux. Les esprits indomptables qui rêvaient de liberté sous le joug de l'empereur ont à présent besoin de l'aide d'hommes tels que Victor. Certains membres de la confrérie de l'ordre, des prêtres qui sont sortis vivants d'Alterang, ont gagné ces cités pour tenter d'étouffer la révolte dans l'œuf. La répression est terrible, seigneur Ral. Des milliers de révolutionnaires potentiels et de braves gens innocents ont été exécutés. Pour être sûr de contrôler l'Empire, les frères survivants se sont installés dans toutes les grandes villes. Certains ont dû aller rejoindre Jagang pour l'informer du désastre et de la mort du frère Narev.
L'Empereur sait depuis longtemps que le frère Narev n'est plus de ce monde,
dit Jensen en tendant un gobelet à Sabar. L'homme la remercia, but une gorgée et reprit le fil de son récit.
« Selon Priska, l'ordre va tout faire pour reprendre le contrôle d'Alterang. Si Jagang n'écrase pas la révolution, elle se répandra partout. Au lieu de semer autour de nous la graine de la subversion, nous devrions préparer nos défenses, parce que l'ordre attaquera bientôt Alterang, avec l'intention de ne pas laisser un survivant sur son passage. En tout cas, c'est ce que pense Priska. »
Sabar marqua un temps d'arrêt. À l'évidence, la thèse de Priska l'inquiétait, mais il était trop honnête pour en rester là.
Victor, lui, dit que nous devrions battre le fer tant qu'il est chaud. D'après lui, il faut agir avant que l'ordre impérial ait le temps de se réorganiser et de nous couper l'herbe sous le pied. Si la révolution éclate partout, l'empereur ne pourra pas éteindre tous ses foyers en même temps. Qu'en pensez-vous, seigneur Ral ?
Priska voudrait qu'Alterang soit le bastion de la révolution. Et Victor pense que cette ville devrait servir d'exemple à d'autres insurgés.
C'est lui qui a raison. Si les gens d'Alterang tentent de devenir le symbole de la liberté au milieu d'un empire hostile, ils seront tôt ou tard rayés de la carte du monde.
L'ordre ne peut pas survivre par la seule grâce de ses idéaux pervertis, et il le sait.
C'est pour ça qu'il a recours à la force. Sans la violence, il s'écroulerait comme une maison rongée par les termites.
Jagang a passé 20 ans à développer des voies de communication, afin de transformer en empire cohérent une région du monde qui vivait dans l'anarchie. Ses routes ont joué un rôle capital dans son succès. Dès que quiconque s'opposait à ses prêtres, il pouvait envoyer des forces armées en un temps record. Après avoir éliminé les dissidents, il est passé à la deuxième phase de son plan.
bourré de propagande le crâne des enfants afin qu'ils soient prêts à vivre et à mourir, surtout à mourir, pour une belle et noble cause. Ces jeunes gens fanatisés par l'ordre sont à présent en train de conquérir le nouveau monde et de massacrer sans pitié tous ceux qui ne sont pas disposés à courber l'échine au nom du salut ultime de l'humanité. Mais pendant que son armée et lui combattent au nord, le fief même de l'empereur est affaibli. C'est notre seule chance de vaincre, et nous devons en tirer profit. En l'absence de Jagang et de ses soudards, les voies de communication nous servent à apporter partout la bonne parole. La flamme de la liberté a été allumée par les premiers héros d'Alterang. À présent, elle doit sillonner le pays afin que tout le monde la voie. Si on la cache derrière les murs d'une ville, l'ordre la soufflera comme celle d'une vulgaire bougie. Sabar, c'est peut-être notre seule chance d'échapper à la tyrannie. En tout cas, la seule qui se présentera de notre vivant. Il nous faut des porteurs de flammes. C'est Victor qui a raison. Sabar sourit de fierté. Quoi qu'il arrive, il aurait pris part au grand combat pour la liberté. Victor aimerait beaucoup que les autres, Prisca par exemple, connaissent la position du seigneur Ral. Seigneur, il voudrait vous parler avant d'aller de ville en ville, regonfler les soufflets, comme il dit. Donc, Nietzsche t'a envoyé à ma recherche? Ouais, et j'ai accepté cette mission avec joie. Victor sera ravi d'apprendre que vous allez bien, et très content de savoir que vous partagez son point de vue. Même si Victor accordait beaucoup d'importance à son opinion, Richard savait qu'il n'aurait pas attendu jusqu'à la fin des temps pour agir. La révolution ne dépendait pas d'un seul homme, le seigneur Ral, mais du désir de liberté de centaines de milliers de gens. Cela dit, Richard devait jouer son rôle de coordinateur parce que cette révolte visait aussi un objectif politique, miner les fondations de l'ordre impérial au cœur même de l'Ancien Monde. Si la manœuvre réussissait, Jagang serait contraint de renoncer à sa politique de conquête pour rentrer chez lui. Pour s'emparer du nouveau monde, Jagang y avait semé la division. Richard entendait lui rendre la monnaie de sa pièce et l'abattre avec ses propres armes. Aydinril ayant été évacuée, l'ordre allait maintenant se tourner vers Dara. Si compétentes qu'elles fussent, les forces d'Aran ne parviendraient pas à arrêter ce raz-de-marée. Si l'ordre n'était pas contraint à venir s'occuper de ses arrières, Dara tomberait et l'empire fondé pour unifier le nouveau monde cesserait d'exister alors qu'il était à peine né. Richard devait aller rejoindre Victor et Nietzsche. Il fallait enfoncer le clou en utilisant la seule stratégie susceptible de diviser les forces de l'ordre. Mais le sourcier et ses compagnons devaient d'abord résoudre un problème urgent qu'ils ne comprenaient pas vraiment. « Je suis content que tu nous aies trouvé, Sabar. Dis à Victor et Nietzsche que nous les rejoindrons bientôt, après avoir réglé une affaire secondaire. Dès que ce sera possible, nous les aiderons à réaliser leur plan. »
Tout le monde sera content d'entendre ce message, Seigneur.
Sabar hésita, puis inclina la tête et désigna le nord.
Seigneur, quand je venais à votre rencontre, en suivant le chemin indiqué par Nietzsche, je suis passé devant votre point de rendez-vous, puis j'ai continué vers le sud. Il y a quelques jours, j'ai traversé sur plusieurs lieux un endroit qui était mort.
Richard leva les yeux et s'avisa que sa migraine avait disparu comme par magie. « Comment ça, mort ? » ?»«
Jusque-là, le paysage ressemblait à celui qui nous entoure. Des arbres, des carrés d'herbe, des buissons. Mais j'ai atteint un lieu où plus rien ne poussait. La végétation s'arrêtait brusquement au même point, comme s'il y avait une ligne de démarcation. Au-delà, on ne voyait que de la roche. Nietzsche ne m'avait pas parlé de ce coin et j'avoue avoir eu très peur. »
Richard regarda les montagnes à l'est.
« Et quelle est la taille de cette zone morte ?» Je m'y suis engagé, abandonnant la vie derrière moi, et j'ai eu le sentiment de m'être aventuré dans le royaume des morts, ou entre les mâchoires d'un nouveau piège inventé par Jagang pour nous détruire. De plus en plus effrayé, j'ai failli faire demi-tour. Puis je me suis rappelé que l'ordre m'avait terrorisé toute ma vie, et cette idée m'a déplu. Ensuite, je me suis imaginé devant Nietzsche et essayant de lui expliquer pourquoi je n'avais pas rempli ma mission. Rouge de honte, j'ai repris mon chemin et marcher quelques lieues avant de retrouver un paysage normal.
Sabar soupira.
D'abord j'ai été soulagé, puis je me suis senti ridicule d'avoir eu si peur.
2, compta mentalement Richard. Voilà qui nous fait 2 étranges frontières.
J'ai été dans des lieux de ce genre, mon ami,
Et j'ai eu au moins aussi peur que toi.
Je n'étais donc pas stupide?
Pas du tout. Si tu devais comparer ce désert à quelque chose, tu parlerais d'une bande de terre ou d'une sorte de ligne de démarcation?
Les deux peuvent convenir.
Sabar désigna l'est.
Je suis venu de ces lointaines montagnes au nord de la dépression. La ligne de dévastation mène tout droit dans le désert.
En direction des piliers de la création. Une ligne presque parallèle à celle que nous avons vue au sud, souffla Callan à l'oreille de Richard. Pourquoi y aurait-il deux frontières si proches l'une de l'autre?
Je n'en sais rien, murmura le sourcier. Celui qui les a érigées voulait peut-être isoler quelque chose de très dangereux.
Callan n'émit pas de commentaire. À son expression, Richard comprit que cette hypothèse l'inquiétait, surtout quand on pensait que les frontières en question n'existaient plus.
Quoi qu'il en soit, conclut Sabar, je suis contente de ne pas avoir rebroussé chemin. Sinon, j'aurais dû affronter Nietzsche en plus du regret de ne pas avoir aidé le seigneur Rall, ou plutôt mon ami Richard.
Le sourcier sourit. Je me réjouis aussi, Sabar. D'après moi, le territoire que tu as traversé n'est pas dangereux. En tout cas, beaucoup moins qu'à une époque.
Qui est Nietzsche?
Demanda Jensen, morte de curiosité.
Une magicienne, répondit Richard. Une ancienne sœur de l'obscurité.
Ancienne? Que veux-tu dire?
Elle était acquise à la cause de Jagang, mais elle s'est aperçue de son erreur et elle a changé de camp.
Encore une histoire que le sourcier n'avait pas envie de raconter par le menu.
Elle se bat à nos côtés et son aide est précieuse.
Jensen sembla ne pas en croire ses oreilles.
Comment peux-tu faire confiance à une ancienne alliée de Jagang? Surtout si elle était une sœur de l'obscurité? J'ai eu affaire à ces femmes, Richard, et je sais combien elles sont impitoyables. Elles sont peut-être obligées d'obéir à Jagang, mais n'oublie pas qu'elles ont volontairement juré allégeance au gardien. Tu es sûr qu'elle ne te trahira pas?
Richard regarda sa demi-sœur dans les yeux. Je dors non loin de toi en sachant que tu portes un couteau à la ceinture.
Jensen eut un sourire gêné.
Je vois ce que tu veux dire.
Nietzsche a-t-elle dit autre chose?
Demanda Callan à Sabar.
Rien, à part que je devais aller à votre rencontre à sa place.
La prudence était une des nombreuses qualités de Nietzsche. Craignant qu'il soit capturé, elle avait révélé un minimum de choses au jeune messager.
Comment a-t-elle su où je serais?
Demanda Richard.
Grâce à la magie, Nietzsche a des pouvoirs aussi impressionnants que sa beauté.
Richard ne prit pas la peine de détromper le pauvre garçon. En réalité, les pouvoirs de Nietzsche étaient mille fois plus impressionnants que sa beauté. Comptant parmi les plus puissantes magiciennes de l'histoire, elle portait naguère un surnom évocateur. La maîtresse de la mort. Richard supposa que Nietzsche s'était servi du lien de la maison Rall pour le retrouver. Si le serment prêté était loyal, cette magie interdisait à celui qui marche dans les rêves de s'introduire dans un esprit. Les darans de pure souche comme Kara pouvaient sentir où était leur seigneur. Un jour, Callan avait avoué que cette aptitude de la mort de Sith lui tapait sur les nerfs. Nietzsche n'était pas daran, mais elle était liée à Richard et avait assez de pouvoir pour manipuler le lien et remonter jusqu'à lui.
« Sabar, dit le sourcier, Nietzsche avait sûrement une raison de t'envoyer. » Elle ne t'a pas fait risquer ta vie pour nous dire qu'elle n'honorerait pas le rendez-vous.
« Bien entendu !»
s'exclama le jeune homme. Il rougit de honte de ne pas y avoir pensé plus tôt.
« Quand je lui ai demandé ce que je devrais vous dire, elle a répondu que tout était écrit dans une lettre. »
Il ouvrit la sacoche accrochée à sa ceinture.
« Lorsqu'elle a mesuré à quelle distance d'elle vous étiez, elle a compris qu'elle n'aurait pas le temps de vous rejoindre. Du coup, elle m'a confié une lettre qui vous expliquera tout. »
Sabar saisit le rouleau de parchemin cacheté de cire rouge entre le pouce et l'index. On eût dit qu'il tenait un aspic prêt à le mordre.
« Nietzsche m'a dit que c'est dangereux, » expliqua-t-il. « Si quelqu'un d'autre que vous l'ouvre, Seigneur, elle m'a conseillé de m'éloigner très vite pour sauver ma peau. »
Sabar posa délicatement la lettre dans la paume de Richard. Le parchemin se réchauffa anormalement au contact de sa peau. Et la cire du cachet se mit à briller, sa lueur rouge enveloppant tout le rouleau. Puis la cire se fissura
explosa et tomba en fine poussière sur le sol.
« J'aime mieux ne pas penser à ce qui serait arrivé si quelqu'un d'autre avait tenté de l'ouvrir, »
souffla Sabar.
« De la magie ?»
demanda Jensen.
« À l'évidence, oui, »
répondit Richard. Il commença de dérouler la lettre.
« Mais j'ai vu la cire tomber, »
s'étonna Jensen.
« As-tu vu autre chose ? Par exemple, une lueur rouge ?»«
Non, c'est arrivé d'un seul coup. »
Nietzsche a protégé cette lettre avec une toile de magie. Ma peau a désamorcé le sortilège. Si quelqu'un d'autre avait tenté d'ouvrir la lettre, ça aurait activé la toile. Tu as vu le résultat de la magie, la cire qui se brise, pas la toile en action.
Un moment,
s'écria Sabar. Il se tapa sur le front.
Bon sang, où ai-je la tête? Je suis chargé de vous donner autre chose.
Sabar décrocha le sac suspendu à son épaule, défit la lanière de cuir qui le fermait, l'ouvrit et sortit prudemment un objet enveloppé dans de la soie noire. D'environ un pied de long et d'un assez petit diamètre, il semblait assez lourd à voir la façon dont le jeune homme le tenait.
« Nietzsche m'a dit de vous donner ça, »
fit Sabar en posant le paquet devant Richard.
« La lettre vous expliquera tout. »«
Qu'est-ce que c'est ?»
demanda Jensen en se penchant un peu.
« Nietzsche ne m'a rien dit. »
Sabar fit la grimace, comme si avouer sans cesse qu'il ne savait pratiquement rien de sa mission lui tapait sur les nerfs.
« Quand elle vous regarde puis vous donne un ordre, on n'a pas réellement envie de lui poser des questions. »
Richard eut un petit sourire. Il était bien placé pour comprendre ce que voulait dire Sabar. « Quelqu'un de particulier doit-il déballer cet objet ?» demanda le sourcier.
« Nietzsche n'a rien précisé, seigneur. »
« S'il y avait une toile de protection, elle t'aurait averti. » Richard leva les yeux. « Kara, tu veux bien déballer notre cadeau pendant que Callan et moi lisons la lettre ?» La mort de Sid s'empara du paquet et commença de défaire les multiples nœuds de la lanière de cuir qui le tenait fermé. Richard inclina un peu la feuille de parchemin pour que Callan puisse lire plus facilement.
« Cher Richard et Callan, désolé de ne pas pouvoir vous dire tout ce que vous devriez savoir, mais je dois m'occuper d'une affaire très urgente et je n'ose pas perdre trop de temps. Jagang s'est lancé dans une aventure que j'aurais cru impossible. Grâce à ses pouvoirs, il a forcé les sœurs de l'obscurité qu'il contrôle à fabriquer des armes à partir d'êtres humains, comme à l'époque des Grandes Guerres. C'est déjà dangereux en soi, mais comme l'empereur n'a pas le don, sa compréhension en de tels domaines est des plus limitées. Et il se comporte comme un taureau qui tenterait d'utiliser ses cornes pour coudre de la dentelle. Les sœurs utilisent des sorciers comme cobayes de leurs expériences. Je ne sais pas où elles en sont, mais je crains le pire. Bien, je reviendrai plus tard sur ce sujet. Commençons par l'objet que je vous envoie. Quand j'ai repéré vos traces, puis entrepris de les remonter pour gagner notre lieu de rendez-vous, j'ai découvert cette chose. Je suppose que vous l'avez vue aussi, puisqu'elle a été touchée par un être clé impliqué dans cette affaire et lié à vous. Cet objet est une balise d'avertissement. Il n'a pas été activé par le contact avec la clé, mais par les événements, et je ne saurais trop insister sur le danger dont il nous prévient. Un tel artefact doit avoir été fabriqué par un sorcier de l'ancien temps, car pour y parvenir, il faut recourir aux deux facettes de la magie. Et l'officiant doit être né avec les deux variantes du don. Pour tout dire, ces balises sont si rares que c'est la première fois que j'en vois une. Mais dans les catacombes du Palais des Prophètes, j'ai lu quelques informations sur les objets de ce type. Pour rester active, une telle balise doit rester liée au sorcier mort qui l'a fabriqué.
Richard leva les yeux et soupira.
« Comment un tel lien est-il possible ?»
demanda Callan.
Le sourcier n'avait pas eu besoin de lire entre les lignes pour comprendre la gravité des propos de Nietzsche.
L'objet doit avoir un lien avec le royaume des morts, dit-il simplement.
La lueur des flammes se refléta dans les yeux de Callan quand elle regarda son mari. Puis elle tourna la tête vers Kara, qui se débattait toujours contre les nœuds afin de déballer un objet lié à un sorcier défunt et actuel résident du royaume des morts. Les deux époux reprirent leur lecture.
D'après ce que je sais de ces balises, elles commandent de puissants boucliers protecteurs conçus pour isoler quelque chose de terriblement dangereux. Ces artefacts vont par deux. Le premier est toujours en ambre. C'est un avertissement pour la personne qui a provoqué la rupture du champ de force. Le contact d'une clé ou de quelqu'un lié à une clé permet de reconnaître l'objet pour ce qu'il est et l'aide à remplir sa fonction, avertir ceux qui sont concernés. Une balise ne peut pas être détruite tant qu'elle n'a pas prévenu la personne qu'elle était censée alerter. Je vous envoie celle-ci pour être absolument sûr que vous l'avez vue. J'ignore à quoi ressemble la seconde, mais je sais qu'elle est destinée à l'être qui sera capable de remettre en place le champ de force. Sur le champ lui-même, je ne puis rien vous dire, et encore moins décrire ce qu'il protégeait. La seule certitude, c'est qu'il a été brisé. La source de cette rupture, même si elle n'est pas la cause de l'activation de la balise, me semble évidente dès qu'on aperçoit l'objet.
« Hé, une petite minute !»
s'écria Kara. Elle se leva et recula comme si la peste noire venait de jaillir hors du paquet.
« Cette fois, je n'y suis pour rien. C'est vous qui m'avez donné l'ordre, Seigneur !»
Le fameux objet que la mort de Sith avait touché quelques jours plus tôt, en réalité une statuette transparente, se dressait au milieu du carré de soie noire. La petite statue représentait Kalan, le bras gauche plaqué contre son flanc et le bras droit tendu. En forme de sablier, la statuette était faite d'ambre transparent. Ainsi on pouvait voir à l'intérieur. Du sable coulait du torse de la mère inquisitrice, traversait sa taille et s'entassait au pied de sa longue robe blanche. Le sable coulait toujours comme la dernière fois que Richard avait vu l'artefact. À ce moment-là, la moitié supérieure était beaucoup plus pleine que l'autre. À présent, c'était l'inverse. Kalan blêmit en regardant l'objet. Dès qu'il l'avait vu, Richard n'avait pas eu besoin de Nietzsche pour flairer le danger. Il avait interdit qu'on y touche, mais comme d'habitude, Kara ne l'avait pas écouté. La statuette reposait dans la niche naturelle d'un rocher au bord de la route. Encore opaque à ce moment-là, sa surface rugueuse et noire, elle gisait sur un flanc. Même ainsi, on reconnaissait parfaitement son modèle, Kalan. Très mécontente de cette découverte, Kara avait refusé de laisser une représentation de la mère inquisitrice à un endroit où n'importe qui pouvait s'en emparer pour en faire le créateur savait quoi. Richard lui avait crié de ne pas toucher l'artefact. Kara était passée outre, et dès qu'elle l'avait saisi, la statuette était devenue transparente. Paniquée, la mort de Sith l'avait reposée dans la niche, debout, mais le dos tourné à la route. Le bras droit s'était tendu à cet instant, indiquant la direction de l'est. Puis, les trois compagnons avaient vu le sable qui coulait dans l'objet. La menace symbolique, le temps qui filait entre leurs doigts, avait bouleversé les trois voyageurs. Kara avait proposé de reprendre la statuette et de la remettre sur le côté pour empêcher le sable de couler. Ne sachant rien de l'objet, mais presque sûr qu'une solution si simple n'aurait aucun effet, Richard avait mis son veto. Cette fois, Kara avait obéi. Le sourcier avait dissimulé l'objet derrière des cailloux et des branchages. À l'évidence, ça n'avait pas suffi. À présent, il savait que le geste de Kara n'était pour rien dans cette affaire. La mort de Sith avait simplement activé la balise et rien de plus. « Kara, pose-la sur le côté. »«
Pardon ?»«
Ce que tu voulais faire l'autre jour, pour voir si le sable cessait de couler. » La mort de Sith dévisagea un moment son seigneur, puis du bout d'une botte, elle fit ce qu'il lui demandait. Le sable continua à couler.
« Comment est-ce possible ?»
demanda Jensen.
« Il ne devrait pas couler dans cette position. »« Tu le vois tomber ?»
demanda Kalan.
« Oui, et je dois avouer que ça me flanque la chair de poule. »
Richard regarda sa sœur, les yeux ronds. « Pour que le sable coule dans cette position, il fallait une intervention de la magie. Or, Jensen était un pilier de la création, un trou dans le monde. » Un rejeton du seigneur Hall dépourvu de magie. Elle n'aurait pas dû voir le sable. Et pourtant...
Je suis d'accord avec vous, jeune dame, ça me terrifie aussi.
dit Sabar.
Encore plus que les gros oiseaux qui tournent au-dessus de ma tête depuis une semaine.
Kalan se redressa.
Tu as vu ?
Commença-t-elle. Entendant l'avertissement de Tom, Richard se leva d'un bond et dégaina son épée. La note métallique si caractéristique retentit. Mais le pouvoir de l'arme ne s'éveilla pas.